VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
7h à Ouagadougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, la marche pour la paix et l'unité du Congo prévue par l'opposition aujourd'hui dans la capitale n'a pas eu lieu. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Aucun militant, aucun leader de l'opposition au boulevard Alfred Raoul où devait avoir lieu la marche de l'opposition pour la paix et l'unité du Congo. D'ailleurs, Claudine Mounari, qui avait appelé à cette manifestation, n'a pu quitter sa maison assignée à résidence depuis 3 jours. Tout comme deux autres opposants, Jean-Marie, Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, dont les domiciles sont encerclés par la police. Le boulevard Alfred Raoul, où il y avait cet après-midi une intense circulation de voitures, est plutôt en train de se parer en lieu de fête, car demain samedi, le président Denis Sassou Nguesso prête serment à cet endroit pour un nouveau mandat de 5 ans. Les unités de la sécurité et de la garde présidentielle paradent, armes au poing, dans la ville, sans compter les militaires et les policiers postés dans les principaux carrefours de la capitale. À l'aéroport international de Mayamaya, par où va arriver la dizaine des chefs d'État attendus à cette cérémonie d'investiture, l'armée a positionné des engins blindés prêts à toute éventualité. Dans l'ensemble, le calme règne ce soir à Brazzaville. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, 5 jours après la présidentielle du dimanche, le dépouillement du vote continue à travers le pays. À Sahor, chef-lieu de la région du Moyen Chari, dans le sud, plus de 60 procès-verbaux ont disparu au lendemain du scrutin. Plus de précisions avec notre correspondant, N'Djamena André Kodmadjingar.
Considéré comme le fief du candidat Joseph Dimrangar Dadnadji du parti Cap Sur, cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, cette tentative de fraude risque de jouer sur lui. Informé de la disparition de ses procès-verbaux, une équipe a été dépêchée sur place pour constater les faits. Benny Toralta Laya, membre de la direction nationale de la campagne du candidat de Cap Sur de retour de Sahar, demande réparation.
Ces procès-verbaux ont été sciemment retirés parce que c'est là où le candidat de Cap Sur a devancé les autres avec un score fleuve. Alors, nous demandons qu'il y ait réparation. On a ramené les procès-verbaux au nombre de 62 procès-verbaux, dont 2 pour la sous-préfecture rurale de Sahar et 60 pour la sous-préfecture de Balimba. Alors, ils veulent réintégrer le délégué de la CENI à refuser. Nous aussi, nous disons que nous n'accepterons pas parce que c'est fait à dessein pour permettre à ce que le candidat du Cap Sur perde toutes ses voix.
Benny Toralta Laya informe par ailleurs que non seulement sa formation politique exige la démission des membres de la CENI communale mise en cause, mais qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes du pays.
Nous avons demandé la démission de ces deux membres de la CENI et en même temps nous avons déposé une poursuite au parquet de Sahar pour qu'ils soient poursuivis et punis conformément à la loi. Et nous allons aussi préparer une requête pour la Cour constitutionnelle parce qu'on a fait ça sciemment. Si on annule, ça ne nous arrange pas parce qu'effectivement c'est ce qui est en train de se préparer. On vient de nous informer comme quoi le candidat du MPS demande à être élu dès le premier tour avec 64%. Et c'est en éliminant là où les autres l'ont battu. C'est comme ça qu'on va procéder à arriver à 64%.
Joint au téléphone par VOA Afrique, Kimto Poyon, l'un des membres de la CENI communale de Sahar mise en cause, rejette cette accusation.
C'est des fausses accusations. On nous accusait pour les 10 PV de la commune de Sahar qui restaient, on allait le comprendre. Les 47 PV, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Et quand ils ont déposé leur plainte, la justice fera son travail et nous aussi, on va rebondir par rapport à cette accusation calomnieuse contre notre personne. Et moi, je vous parle devant Dieu et au nom de Dieu.
Après avoir observé les irrégularités dans le déroulement du vote et la centralisation des procès-verbaux à N'Djamena, le PLD, Parti pour les libertés et le développement, exige de son côté le renvoi de tous les membres de la CENI centrale et leur remplacement par des personnalités plus consciencieuses et compétentes. Car, selon le PLD, ces irrégularités violent de façon flagrante les articles 19 et 73 du Code électoral. André Kodmadjingar N'Djamena, pour VOA Afrique.
Aux Comores, le colonel Azali Assoumani, élu président de l'archipel, selon les résultats officiels du second tour de la présidentielle de dimanche dernier, rendu public aujourd'hui par la commission électorale. Le colonel Assoumani, 57 ans, a obtenu 40,98% des suffrages. Il devance le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soili, dit Mamadou, qui recueille 39,87% des voix. Le troisième candidat en lice, Mouini Baraka, gouverneur de la Grande Comore, est nettement clairement distancé par ses rivaux. Azali Assoumani avait déjà dirigé les Comores au début des années 2000. Arrivé au pouvoir pour un coup d'État en avril 1999, il avait gardé les rênes du pays et accédé à la présidence 3 ans plus tard à la suite d'élections.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest maintenant, le Ghana et le Togo sont les prochaines cibles d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, après les récentes attaques terroristes de grande envergure au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. L'information provient d'un document du service de sécurité ghanéen qui a fait l'objet d'une fuite. Jacques Aristide.
La menace d'une attaque terroriste au Ghana est réelle, indique le secrétariat du Conseil de sécurité nationale dans une note adressée au département d'immigration du pays, appelant à une surveillance accrue des frontières, de même qu'au profilage complet des personnes venant notamment du Mali, Niger et de la Libye. Le président John Mahama a tenu à rassurer les Ghanéens.
We have trained our own special forces.
Nous avons formé nos propres forces spéciales. Nous nous préparons à une telle éventualité, mais nous avons besoin de la vigilance du public, a-t-il déclaré à la radio. Dans sa note, l'agence de sécurité ghanéenne, se basant sur ce qui est présenté comme les aveux d'un présumé terroriste interrogé en Côte d'Ivoire, indique que le Togo, voisin du Ghana, est également dans le collimateur des djihadistes d'ACMI.
Au Niger, les organisations de la société civile vont manifester à Niamey le 24 avril prochain à l'appel du collectif Résistance citoyenne. Elles entendent dénoncer ce qu'elles considèrent comme une mascarade électorale qui a conduit à la réélection du président Issoufou Mahamadou pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis une nouvelle vague de migrants en Italie cette semaine, selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Près de 6 000 migrants, dont beaucoup originaires d'Afrique subsaharienne et de la Corne de l'Afrique, ont débarqué en territoire italien depuis mardi en provenance de la Libye, a souligné Joël Milman, porte-parole de l'OIM. Lors d'une conférence de presse ce vendredi à Rome, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a réclamé une stratégie européenne qui parte de l'aide aux pays africains et bloque les voyages de la mort, dit-il. Deuxième et dernier jour du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie. À l'ouverture de la réunion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les dirigeants musulmans à surmonter leurs différences confessionnelles pour mieux lutter contre le terrorisme. Idriss Fall.
Le centre d'Istanbul est quadrillé par plus de 5000 policiers. La 13e conférence de l'OCI rassemble les représentants de 56 pays, dont une trentaine de chefs d'État, devant ses hôtes, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. M. Erdogan a déclaré que sa religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme et que les musulmans doivent s'unir pour faire face au terrorisme. Il a annoncé la création prochaine d'un centre pour la coopération des polices des pays de l'OCI, une sorte d'Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste. Le président turc a aussi déploré l'augmentation de l'islamophobie dans certains pays occidentaux qui, selon lui, parlent des attentats de Bruxelles et Paris, mais très peu des attentats d'Ankara ou de Lahore au Pakistan.
Regain de violence en Syrie, plus de 200 combattants de différentes forces armées ont été tués depuis dimanche dans les combats qui font rage dans la province d'Alep, dans le nord du pays. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, Saloua Jafari.
Alep, quartier général al-Mashhad, bastion de l'armée syrienne libre, une centaine de manifestants demandent le départ de Bachar al-Assad et se félicitent de leurs derniers exploits. Pourtant, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait plus de 200 morts parmi les différentes factions armées depuis dimanche, sans qu'aucun camp n'ait eu concrètement avancé sur le terrain. Ce regain de violence survient alors que des pourparlers pour un règlement politique de cette guerre ont lieu à Genève sous l'égide de l'ONU. La délégation du régime syrien est arrivée vendredi en Suisse pour participer à ces négociations indirectes avec les rebelles. Le principal point d'achoppement reste le rôle du président Bachar al-Assad, que l'opposition voudrait voir partir dès le début de la transition politique. Sur le plan humanitaire, le constat est alarmant. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, 30 000 civils ont fui en 48 heures les combats opposant les djihadistes du groupe État islamique aux rebelles dans les secteurs de la province d'Alep, bordant la frontière avec la Turquie.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.